vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Bonjour et nous voici encore pour une fois rassemblés avec Stéphane à la manette et pour vous parler de Hitchcock, le virtuose, le maître du suspense. Il y a 15 jours, je vous évoquais quelques films avec en vedette ces blondes que Hitchcock affectionnait. Et il faut savoir aussi qu'il avait l'habitude de travailler avec sa petite famille, ses acteurs préférés comme Cary Grant, qui lui était plutôt pour l'humour, Jim Stewart, qui apportait peut-être un peu plus d'émotion. Il y avait aussi Montgomery Clift, Anthony Perkins, évidemment, Gregory Peck, etc. etc. Mais aujourd'hui, dans cette rencontre, je voudrais mettre l'accent un peu plus sur sa technique. Hitchcock, c'est le maître du suspense, où il y a suspense, il manie formidablement bien suspense, humour et sexe. Alors, pour nous mettre dans l'ambiance, eh bien, écoutez, nous allons écouter la musique de La mort aux trousses. Allons-y, c'est parti. Voilà, vous êtes en train d'écouter, évidemment, vous l'avez reconnu, la musique de La mort aux trousses. La mort aux trousses, vous savez, c'est ce fameux film où à la fois on voit les monts de Rushmore à la fin et puis surtout cette fameuse séquence, ce plan qui dure 7 à 8 minutes où vous voyez Cary Grant en train d'attendre l'avion qui n'arrive pas et qui finit par arriver d'une façon évidemment assez tragique. Quoi, voilà. Bien, alors, donc je vous parlais aujourd'hui, je mettais l'accent un petit peu sur Hitchcock, le maître qui maîtrise formidablement bien sa technique. Et en effet, Hitchcock est très tatillon. Il sait que le pouvoir de l'image et de la lumière au service, évidemment, de son histoire. Alors, je voudrais vous parler de quelques films, en particulier La corde, d'autant plus qu'il est passé à la télévision il n'y a pas longtemps. C'est un film de 1948, tout à fait original dans sa forme. Et c'est pourquoi je pense que le mieux, vous savez qu'il y a un excellent livre qui a été fait par Hitchcock, qui a interviewé c'est plutôt Truffaut, François Truffaut qui a interviewé Hitchcock sur tous les films qu'il a réalisés. Donc c'est évidemment, c'est un bréviaire d'une certaine façon. Et je voudrais vous lire tout simplement ce que dit Hitchcock à propos de ce film La corde, donc réalisé en 1948 avec James Stewart. Et je répète que nous avons vu il n'y a pas si longtemps. Donc je lis. Alors, il parlait de la couleur parce qu'effectivement, Hitchcock a beaucoup tourné en noir et blanc, mais aussi quelquefois en couleur. Et que c'est vrai que pour un opérateur et pour même un réalisateur, ça pose problème, quoi. C'est pas parce que c'est noir et blanc que c'est vieux ou aux couleurs que c'est nouveau. Aujourd'hui, ça peut être un choix artistique aussi, évidemment. Et ça pouvait l'être aussi à l'époque. Alors, je cite. « Le chef opérateur moyen est un excellent technicien. Il peut faire qu'une femme soit belle, il peut organiser des lumières naturelles très vraisemblables et sans aucune exagération, mais avec le film en couleur, surgit un problème, celui du goût purement artistique de l'opérateur. Est-ce que le chef opérateur a le sens de la couleur? Est-ce qu'il a un bon goût dans son choix des couleurs? Dans le cas de l'opérateur de Rope, donc c'est la corde, il a dit simplement « Eh bien, c'est un coucher de soleil ». Et probablement, il n'en avait pas regardé depuis longtemps, si toutefois il en avait regardé un de toute sa vie. C'était comme une vulgaire carte postale tout à fait inacceptable. Lorsque j'ai vu les premiers rushs de Rope, filmés par Joseph Valentine, qui avait déjà vu « Shadow of the Doubt », l'ombre d'un doute, la première remarque que j'ai faite, c'est qu'on voit beaucoup mieux en couleur qu'en noir et blanc. Et j'ai découvert que l'on utilisait habituellement le même principe d'éclairage dans les deux cas. Or, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, le style d'éclairage que j'admirais chez les Américains en 1920 tendait à surmonter la nature bidimensionnelle de l'image en séparant l'acteur de l'arrière-plan, en le détachant du fond grâce à des lumières placées derrière lui. Or, cela n'est absolument plus nécessaire en couleur, sauf si, par le plus grand des hasards, un acteur porte un habit de la même couleur que le décor qui se trouve derrière lui. Tout cela est enfantin, n'est-ce pas? Mais il y a malheureusement une tradition très difficile à briser. Dans le film en couleur, nous ne devrions pas pouvoir déterminer les sources de lumière du studio et pourtant, si vous regardez beaucoup de films, vous voyez des personnages dans un corridor, soi-disant sombre, ou encore dans les coulisses d'un théâtre entre la scène et les loges, et vous sentez les lumières à arc du studio qui les inondent et vous voyez sur les murs des ombres noires comme du fusain. Alors vous vous dites, mais d'où viennent toutes ces lumières? Je crois que la question de l'éclairage des films en couleur n'est pas encore résolue. Avec Tom Curtin, j'ai essayé de changer pour la première fois le style de répartition de la lumière dans les films en couleur avec l'aide de Jacques Varenne, qui avait déjà travaillé avec moi pour Rebecca et Spellbound. Nous savons que fondamentalement, il n'y a pas de couleur, que fondamentalement, il n'y a pas de visage, c'est ce que la lumière se porte dessus. Après tout, une des premières leçons apprises à l'école d'art est qu'il n'y a même pas de ligne, seulement la lumière et l'ombre. Le dessin que j'ai exécuté le premier jour où je me trouvais à l'école d'art n'était pas un mauvais dessin, mais comme j'avais fait des lignes, il était absolument incorrect, et on me l'a fait remarquer aussitôt. Lorsque je tournais Rope, le chef opérateur est tombé malade, et après 4 ou 5 jours, et on ne l'a plus revu. Alors je me suis trouvé seul avec le technicolor consultant qui s'est débrouillé lui-même avec le chef électricien. Question de François Truffaut. Avez-vous rencontré beaucoup de problèmes pour la mobilité de la caméra? Réponse de Hitchcock. La technique de la caméra mobile avait été répétée dans ses moindres détails auparavant. On travaillait avec la dolly et par terre il y avait des petits repères, des chiffres très discrets inscrits sur le sol et tout le travail du caméraman sur sa dolly était d'arriver sur tel numéro, à telle phrase du dialogue, puis à tel autre numéro et ainsi de suite. Et lorsque nous passions d'une pièce à l'autre, le mur du living room ou de l'entrée s'évanouissait sur des rails silencieux, les meubles aussi, montés sur de petits trous, étaient repoussés au fur et à mesure. C'était réellement un spectacle d'assister à une prise de vue de ce film. Question de François Truffaut. Ce qui paraît incroyable, c'est de pouvoir faire tout cela dans le silence et d'enregistrer le son en direct. Pour un Européen, c'est inimaginable qu'il travaille à Rome ou à Paris. Réponse de Hitchcock. Même à Hollywood, voyez-vous, mais nous avions fait fabriquer un plancher spécial. La toute première scène montre deux jeunes gens qui étranglent un garçon et enferment son cadavre dans un coffre. Alors il y a peu de dialogue. On circule dans le living room et le dialogue commence. On pénètre dans la cuisine, les murs s'escamotent, les lumières s'élèvent, c'est notre première prise de la première bobine et j'ai tellement peur que je peux à peine regarder. Nous en sommes à la 8e minute de prise de vue consécutive. La caméra panoramique lorsque les deux meurtriers retournent vers le coffre et il y a là un électricien qui se tient debout. La première prise était fichue. Etc, etc. Bon, alors bref, vous avez compris, c'est toujours très amusant d'entendre Hitchcock parler de ses films, évidemment. Alors, dans l'inconnu du... On va parler d'autres films, évidemment. Dans l'inconnu d'une heure express, vous souvenez, lorsqu'à la fin, le manège se brise, eh bien, c'est assez spectaculaire. Il faut savoir que c'est un décor, que c'est une maquette même. Et l'explosion est faite en studio avec un système de transparence. C'est-à-dire que vous avez une projection sur un écran d'un film qui a été filmé et vous avez en premier plan des... On joue devant ce premier plan, évidemment. Voilà, donc c'est aussi quelque chose d'assez original il adorait faire ça. Vous avez aussi le... C'est un procédé d'ailleurs qui est souvent utilisé. Et écoutez, on va faire une petite pause musicale et je vous propose d'écouter peut-être la bande-annonce de L'Inconnu du Nord Express.
Fellows meet, like you and I. No connection between them whatsoever. Each one has somebody that he'd like to get rid of. So, they swap murders.
Fantastic, isn't it? You didn't know when Bruno proposed this pact that he was serious. Dead serious. You had made the mistake of speaking to a stranger on a train. And now, wherever you go, whatever you do, you find yourself dominated by his evil presence. And you, Bruno, to you, killing was the answer. Murder without clue, without motive. The perfect crime. Too perfect. And Anne, life looked very attractive to you until the love in your heart became gripped by a terror that drew you deeper and deeper into this vortex of conspiracy.
To be double-crossed. I have a murder on my conscience, but it's not my murder, Mr. Haynes.
I wonder if you know how much I love you.
Brazen woman, I'm the one to say that.
Haynes, hold it!
Voilà, vous venez d'entendre donc la bande-annonce de L'Inconnu du Nord Express. Vous voyez, c'est toujours énorme, c'est du Hitchcock. Et je parlais des cadrages du film, puisque je me focalise un peu sur le style de Hitchcock, de la taille des images que la taille est choisie en fonction des buts dramatiques et de l'émotion, et non pas simplement dans le... seul but de montrer le décor, évidemment. Sauf que le décor chez Hitchcock est extrêmement important aussi. Mais bon, c'est un tout. Enfin, c'est ça, c'est la réalisation cinématographique, bien évidemment. Enfin, c'est toujours intéressant d'entendre Hitchcock parler lui-même de ses films. Je voudrais aussi vous parler peut-être de Vertigo, justement, parce qu'il est passé à la télévision lundi soir sur Arte, ou dimanche soir, je ne sais plus. C'est un film de 1956-58. C'est un Vertigo ou surfroide, hein, qui a aussi à nécessiter évidemment quelques trucages. C'est un film qui a été adapté du livre de Boileau et Narcejac. Vous savez, ils étaient nantais tous les deux, Monsieur Boileau et Monsieur Narcejac. Je le sais parce que je vais vous raconter ma vie, mais enfin juste entre parenthèses, parce que mon frangin qui devait être en maths sup à Nantes a eu pour prof, je crois que c'était, je sais plus si c'est Boileau ou Narcejac, mais enfin l'un des deux qui était prof de je ne sais quoi d'ailleurs, de français peut-être, je ne sais plus exactement. Bref, donc tout ça m'amuse. Bon bref, ce livre donc de Boileau et Narcejac s'appelait Les Diaboliques. Et c'est un film qui raconte les efforts que fait James Stewart pour recréer une femme à partir de l'image d'une femme morte qu'il a aimée. Et cette ambiguïté, qui est doublée de celle autour du personnage féminin, et cette ambiguïté est donnée par les images. Alors Hitchcock s'explique, et donc là aussi, je me propose de vous lire exactement ce qu'il en dit, enfin pas uniquement, mais de vous choisir un passage. Alors, je cite Hitchcock. Vous vous souvenez que dans la première partie, lorsque James Stewart suivait Madeleine dans le cimetière, Les plans sur elle la rendaient assez mystérieuse, car nous les filmions à travers des filtres de brouillard. Nous obtenions ainsi un effet coloré vert par-dessus la brillance du soleil. Et plus tard, lorsque Stuart rencontre Judy, donc c'est la nouvelle femme, enfin je mets une parenthèse pour vous expliquer que Madeleine c'était la femme qu'il devait suivre parce que le mari voulait s'en débarrasser ou en tout cas prétendait que le contraire. Mais enfin bon, voilà, donc enfin, je ne vous raconte pas le film, donc ce n'est pas très intéressant. Je vous parle de l'aspect technique et les trucages, enfin, d'une certaine façon, qu'utilise Hitchcock. Donc plus tard, lorsque Stuart rencontre Judy, j'ai choisi de la faire habiter l'Empire Hotel à Post Street parce qu'il y a, sur la façade de cet hôtel, une enseigne au néon vert qui clignote constamment. Cela m'a permis de provoquer sans artifice le même effet de mystère sur la fille lorsqu'elle sort de la salle de bain. Elle est éclairée par le néon vert. Elle revient vraiment d'entre les morts. Et ensuite, on repasse sur Stuart qui la regarde et à nouveau sur la fille, mais cette fois filmée normalement, car Stuart est revenu à la réalité. En tout cas, James Stewart, pendant un moment, a senti que Judy était bien Madeleine et il en a été abasourdi jusqu'à ce qu'il aperçoive le médaillon qui l'en a convaincu. Alors il a compris qu'on s'était joué de lui. Truffaut. Tout cet aspect érotique du film est passionnant. Je pense à une autre scène vers le début, après que James Stewart a repêché Kim Novak qui s'était jetée à l'eau. On la retrouve chez James Stewart, couchée et nue dans son lit. Alors seulement, elle revient à elle et cela nous prouve qu'il l'a déshabillée, qu'il l'a vue nue et sans que rien n'en fasse état dans le dialogue. Le reste de la scène est superbe lorsque Kim Novak circule dans le peignoir de Stewart, lorsqu'on voit ses pieds nus courir sur la moquette, lorsqu'elle vient s'asseoir devant le feu et que James Stewart passe et repasse derrière elle. Il y a dans Vertigo une certaine lenteur, un rythme contemplatif qu'on ne trouve pas dans vos autres films, souvent construits sur la rapidité, la fulgurance. Hitchcock répond : exact. Mais ce rythme est parfaitement naturel puisque nous racontons l'histoire du point de vue d'un homme qui est un émotif. Avez-vous aimé l'effet de distorsion lorsque Stuart regarde dans la cage d'escalier du clocher ? Savez-vous comment cela a été fait ? Truffaut : ben, j'ai pensé que c'était un travelling arrière combiné avec un effet de zoom avant. C'est ça ? Hitchcock : c'est vrai. Déjà en tournant Rebecca, quand John Fontaine doit s'évanouir, je voulais montrer qu'elle éprouve une sensation spéciale, que tout s'éloigne d'elle avant sa chute. Je me souvenais toujours qu'un soir, au bal de Chelsea's Heart, à l'Albert Hall de Londres, je m'étais saoulé terriblement. Et j'avais eu cette sensation. Tout s'éloignait de moi, très loin. J'ai voulu obtenir cet effet dans Rebecca, mais en vain, car voici le problème. Le point de vue restant fixe, la perspective doit s'allonger. J'ai pensé à cela pendant 15 ans. Et quand j'ai redemandé cela dans Vertigo, on a résolu le problème en se servant de la dolly et du zoom simultanément. Et j'ai demandé « Combien cela me coûtera-t-il » $50 000. Ben pourquoi ? Parce que nous devons mettre la caméra tout en haut de l'escalier et échafauder tout un système pour soulever la caméra, la maintenir dans le vide, établir un contrepoids, etc. etc. Alors j'ai dit « Il n'y a pas de personnage dans cette scène. C'est un point de vue. Pourquoi ne pas construire une cage d'escalier en maquette, la poser horizontalement sur le sol et faire notre prise de vue, travelling zoom, à plat ? Ben cela n'a coûté que $19 000. » François Truffaut : ah ben oui, tout de même, j'ai le sentiment que vous aimez bien Vertigo. Hitchcock : je suis gêné par le trou qu'il y a dans le récit. L'homme, le mari, qui a jeté le corps de sa femme du haut du clocher, comment pouvait-il savoir que James Stewart n'allait pas gravir les escaliers ? Parce qu'il était sujet au vertige ? Mais cela ne pouvait pas être garanti. Truffaut : c'est juste. Mais je pensais que vous vous accommodiez très bien de ce postulat. Le film, je crois, n'a été ni un succès ni un échec. Hitchcock répond : il couvrira ses frais. Truffaut : pour vous, c'est donc un échec ? Hitchcock : je suppose que oui. Vous savez qu'une de nos faiblesses, quand un de nos films ne marche pas bien, est d'accuser le service des ventes. Alors pour respecter la coutume, blâmons le service des ventes et disons ils ont mal vendu le film. Vous savez que j'avais conçu Vertigo pour Vera Mills. Nous avions fait des essais concluants, mais tous les costumes étaient faits pour elle. Paramount n'a pas voulu d'elle. Paramount était d'accord. Simplement, elle est devenue enceinte juste avant de tourner le rôle qui allait faire d'elle une vedette. Puis j'ai perdu mon intérêt pour elle, le rythme n'y était plus. Bien, donc vous avez compris l'astuce donc dans le film Vertigo, quand on voit effectivement ce plan d'en haut où tout d'un coup on a la sensation de vertige, ça n'est qu'une maquette, évidemment tout ça est formidable. Alors justement à propos de cette comédienne, je voudrais quand même vous citer juste la suite de ce qu'il dit de Vertigo, parce qu'il y a Kim Novak que l'on trouve assez formidable. Mais il semblerait que Hitchcock et Kim Novak, ça n'a pas très bien fonctionné. Parce que Truffaut lui dit « Je sais que dans beaucoup d'interviews, vous êtes plein de Kim Novak, mais tout de même, je la trouve parfaite dans le film. Elle correspond très bien au rôle, essentiellement à cause de son côté passif et bestial. » Hitchcock répond « Mademoiselle Novak est arrivée sur le plateau, la tête pleine d'idées que malheureusement, il m'était impossible de partager. Je ne contrarie jamais un acteur au cours des prises de vue, afin de ne pas mêler les électriciens à cela. Je suis allée retrouver Mademoiselle Novak dans sa loge et je lui expliquais quelle robe et quelle coiffure elle devait porter, celle que j'avais prévue depuis plusieurs mois. Je lui ai fait comprendre que l'histoire de notre film m'intéressait beaucoup moins que l'effet final visuel de l'acteur sur l'écran dans le film terminé. » Truffaut. Toutes ces difficultés préalables vous rendent injuste pour le résultat, car je vous assure que tous les gens qui admirent Vertigo aiment Kim Novak dans le film. On ne voit pas tous les jours une actrice américaine aussi charnelle sur un écran. Quand on la retrouve dans la rue en Judy, avec sa chevelure rousse, elle est très animale, par son maquillage et probablement aussi parce que, sous son chandail, elle ne portait pas de soutien-gorge. Hitchcock. Effectivement, elle n'en porte pas et du reste, elle s'en vante constamment. Voilà, donc vous voyez les rapports de Hitchcock par rapport aux femmes et évidemment à ses actrices. Et alors je voudrais vous parler aussi d'une chose, puisque je parlais de la technique de Hitchcock, c'est du MacGuffin. Alors là aussi, c'est très intéressant parce qu'il a inventé ce système de MacGuffin. Et je vais essayer de vous expliquer plus ou moins, enfin non pas moi, mais je vais donner la parole encore à Hitchcock. Prenons page 111, hein, donc du fameux livre de François Truffaut Hitchcock. Notamment, il parle du film, je ne sais plus lequel, enfin bon, peu importe, mais c'est surtout moi le MacGuffin qui m'intéresse. Notamment, Truffaut dit, il parle d'un homme, l'homme qui connaît la fameuse clause secrète. Alors, Hitchcock répond, la fameuse clause secrète, et ça c'est vrai dans tous ses films, dans Moreau Trou, c'est partout, on a le MacGuffin. C'est notre MacGuffin. Il faut que nous parlions de MacGuffin. Alors, Truffaut demande, le MacGuffin, c'est le prétexte, c'est ça. Hitchcock répond, c'est un biais, un truc, une combine. On appelle cela un gimmick. Alors, voilà toute l'histoire du MacGuffin. Vous savez que Kipling écrivait fréquemment sur les Indes et les Britanniques qui luttaient contre les indigènes sur la frontière de l'Afghanistan. Dans toutes les histoires d'espionnage écrites dans cette atmosphère, il s'agissait invariablement du vol des plans de la forteresse. Cela, c'était le MacGuffin. MacGuffin, c'est est donc le nom que l'on donne à ce genre d'action, voler les papiers, voler les documents, voler un secret. Cela n'a pas d'importance en réalité, et les logiciens ont tort de chercher la vérité dans le MacGuffin. Dans mon travail, j'ai toujours pensé que les papiers ou les documents ou les secrets de construction de la forteresse doivent être extrêmement importants pour les personnages du film, mais sans aucune importance pour moi, le narrateur. Maintenant, d'où vient le terme MacGuffin ? Cela évoque un nom écossais et l'on peut imaginer une conversation entre deux hommes dans un train. L'un dit à l'autre « Qu'est-ce que c'est que ce paquet que vous avez placé dans le filet ?» L'autre « Ah, ça, c'est un MacGuffin. » Alors le premier, mais qu'est-ce que c'est un MacGuffin ? L'autre, eh bien, c'est un appareil pour attraper les lions dans les montagnes Adirondack. Le premier, mais il n'y a pas de lions dans les Adirondack. Alors l'autre conclut, dans ce cas, ce n'est pas un MacGuffin. Cette anecdote vous montre le vide du MacGuffin, le néant du MacGuffin. Truffaut, c'est drôle, très intéressant. Hitchcock continue. Un phénomène curieux se produit invariablement lorsque je travaille pour la première fois avec un scénariste. Il a tendance à porter toute son attention au MacGuffin et je dois lui expliquer que cela n'a aucune importance. Prenons l'exemple de 39 marches. Que cherchent les espions ? L'homme à qui il manque un doigt ? Et la femme au début, qu'est-ce qu'elle cherche ? S'est-elle approchée à ce point du grand secret qu'il a fallu la poignarder dans le dos à l'intérieur de l'appartement de quelqu'un d'autre ? Lorsque nous construisions le scénario des 39 marches, nous nous sommes dit, complètement à tort, qu'il nous fallait un prétexte très grand parce qu'il s'agissait d'une histoire de vie et de mort. Et lorsque Robert Donat arrive en Écosse et parvient à la maison des espions, il a trouvé des informations additionnelles. Peut-être a-t-il suivi l'espion. Et en suivant l'espion dans son travail, dans notre premier scénario, Donat arrivait en haut d'une montagne et il regardait en bas de l'autre côté. Il voyait alors des hangars souterrains pour avions découpés dans la montagne. Il s'agissait donc d'un grand secret d'aviation, de hangars secrets à l'abri des bombardements, etc. etc. Et à ce moment, notre idée était que le MacGuffin devait être grandiose, effectif autant que plastique. Mais nous commencions à examiner cette idée. Qu'est-ce que ce serait ? Qu'est-ce qu'un espion ferait après avoir vu ces hangars ? Est-ce qu'il enverrait un message à quelqu'un pour dire où il était ? Et dans ce cas, que feraient les ennemis futurs du pays ? Truffaut, cela n'était intéressant pour le scénario qu'à la seule condition de faire sauter le hangar. Hitchcock, nous y avons pensé. Mais comment les personnages feraient-ils exploser toute la montagne ? Nous examinions tout cela et invariablement nous abandonnions chacune de ces idées au fur et à mesure au profit de quelque chose de beaucoup plus simple. Truffaut, on pourrait dire que non seulement le MacGuffin n'a pas besoin d'être sérieux, mais encore qu'il gagne à être dérisoire, comme la petite chanson d'une femme disparaît. Hitchcock, certainement. Finalement, le MacGuffin des 39 marches est une formule mathématique en rapport avec la construction d'un moteur d'avion et cette formule n'existait pas sur le papier puisque les espions se servaient du cerveau de Mr. Memory pour véhiculer ce secret et l'exporter à la faveur d'une tournée de music hall. Bien, vous l'avez compris, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Voilà, et donc c'est que finalement, c'est pas grand-chose, c'est quasiment rien, quoi. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Je voudrais juste peut-être aller un peu plus loin, notamment quand Hitchcock dit que son meilleur, Hitchcock, mon meilleur MacGuffin, et par meilleur, je veux dire le plus vide, le plus inexistant, le plus dérisoire, est celui de North by Northwest. C'est un film d'espionnage. Et la seule question posée par le scénario est « Mais que cherchent ces espions ?» Or, au cours de la scène sur le champ d'aviation de Chicago, l'homme de l'agence centrale d'intelligence, la CIA, explique tout à Cary Grant, qui lui demande en parlant du personnage de James Mason « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et l'autre répond « Disons que c'est un type qui fait de l'export-import. Mais qu'est-ce qu'il vend ?»« Oh, juste des secrets du gouvernement. » Vous voyez que là, nous avions réduit le MacGuffin à sa plus pure expression « Rien ». Truffaut, rien de concret, oui, et cela prouve évidemment que vous êtes très conscient de ce que vous faites et que vous dominez parfaitement votre travail. Ce genre de film construit sur le MacGuffin fait dire à certains critiques « Hitchcock n'a rien à dire ». Et à ce moment-là, je crois que la seule réponse serait « Un cinéaste n'a rien à dire et a montré ». Hitchcock, exact. Voilà, donc c'est en même temps toujours très amusant. Et puis, donc vous l'avez compris, puisque je n'ai plus beaucoup de minutes pour vous parler de Hitchcock, mais peut-être que j'y reviendrai. Quant à l'humour, évidemment, est toujours parfois noir. Hein, il est omniprésent, notamment dans une scène, je crois que c'est dans Qui a tué Harry, où tout d'un coup, vous avez un homme qui est menotté à la main et il suit les allées et venues d'une femme qui ôte ses bas. Donc, ça veut dire que vous voyez la main qui est prise comme ça et qu'elle est en train d'ôter ses bas. Et vous avez la main du fugitif qui est en train de... Bon, voilà, des tas de petites choses comme ça qui sont très amusantes et toujours quand même un peu érotiques, hein, c'est évident. Alors bon, l'humour aussi avec ce côté un peu narcissique de Hitchcock qui passe dans tous ses films, ça on le sait évidemment, notamment dans Vertigo, on le voit passer dans un premier plan avec sa contrebasse, dans La mort aux trousses, il se fait prendre, il attend le bus, enfin, etc., etc. Bon, bref, vous avez compris, en tout cas, il nous a fait partager toutes ses hantises, ses peurs, et évidemment, pour notre plus grand bonheur.